Radio Okapi. Le journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Travaux de construction du port en eau profonde à Banana dans les territoires de Mwanda au Congo central. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, donne le coup d'envoi ce lundi 31 janvier des travaux qui seront exécutés par Dubai Port World. Journée mondiale des maladies négligées dont la trypanosomiase humaine africaine, c'était hier 30 janvier. En cette année, l'accent est mis sur la sensibilisation et l'accès aux soins. Dans ce journal, Jean-Pierre Elali Coco reviendra sur les provinces les plus touchées et comment s'organise la riposte sur terrain. Enfin, notre invité ce matin, c'est le docteur Julienne Tchoua, médecin coordonnatrice du programme de lutte contre la trypanosomiase dans les provinces du Kassai Oriental et de la Lomami. Avec elle, nous parlerons de l'évolution de la prise en charge de cette maladie dans ces provinces. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. C'est ce lundi 31 janvier que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi va donner le coup d'envoi des travaux de construction du port en eau profonde à Banana dans le territoire de Mwanda au Congo central. Sur place à Mwanda où se tiendra cette cérémonie, le décor est déjà planté et une ambiance bon enfant y règne. Plusieurs personnalités, y compris les membres du gouvernement central, y séjournent depuis ce week-end pour suivre la matérialisation de cette ambition. Projet élaboré depuis l'époque coloniale. À cette occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne manquera pas à prononcer sa déclaration, ainsi que le représentant du Dubai Power World, la firme qui va construire ce port géant donnant l'accès à la RDC sur la côte ouest de l'Afrique. Plus de détails avec Nana Plurichement.
C'est au terminal du fleuve Congo, situé à Banana, que sera construit les quais d'accostage de ces ports en eau profonde, un ouvrage inédit, différent d'autres ports du pays construits sur le fleuve. Hormis les quais d'accostage, les entrepôts, l'administration portière qui seront construits, une zone industrielle sera aussi implantée dans la zone qui englobe l'île de Boulambemba, la base navale de Kitona et certains villages du secteur des Asolongo. Une fois construit, les ports en eau profonde aura un impact économique et social indéniable sur la population, avec l'accostage dans les eaux nationales congolaises des navires essentiellement ceux de gros tonnage, inaccessibles dans les biefs maritimes congolais. Ces projets tant entendus à Mwanda en particulier pour son essor, se concrétisent peu à peu. Il créera les emplois directs et va promouvoir les transports des marchandises par conteneur. En attendant l'achèvement des travaux de construction de ces ports et sa mise en service, la RDC reçoit un faible tonnage de marchandises par rapport au port des Pointe-Noire du Congo-Brazzaville, de Luanda en Angola ou celui de Kribi au Cameroun ou à cause des gros bateaux. Par ailleurs, la construction d'un port en eau profonde à Banana va non seulement faciliter l'exportation des produits locaux, mais également, elle impactera positivement sur les prix des produits importés. Matadi, Nana Plurichimambu, Radio Okapi.
Et puis, le président de la République a récemment nommé en décembre 2021 les membres du comité de gestion du fonds minier pour les générations futures, FOMI en sigle. À cet effet, Radio Okapi vous propose une série de productions pour tout savoir sur cet établissement public. Alors, Cynthia Bachizina Bizana, comment est née l'idée des FOMI et qu'est-ce qui a motivé sa mise en place?
Eh bien, pour commencer, une petite contextualisation s'impose. Retour en 2018 avec l'adoption du nouveau code minier révisé. Ce code est qualifié de révolutionnaire par la société civile. Et pour cause, il va mettre en place des innovations pour que la production minière de plus en plus intense profite également aux communautés locales affectées par cette activité. Mais il est aussi question d'une prise en compte des générations futures dans la politique minière. Objectif, faciliter le transfert des richesses entre les générations et garantir en quelque sorte une équité intergénérationnelle. Ce qui est une bonne chose quand on sait que les ressources minières sont épuisables et non renouvelables. C'est alors que la commission chargée de la révision du code minier va s'inspirer de quelques pays africains dont notamment la Guinée-Conakry. Ce pays a déjà créé un fonds minier pour le développement local. C'est ainsi que naît l'idée de créer également le fonds minier pour les générations futures en RDC. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et on parle justice dans cette édition du journal. La taxe RAM jugée illégale par les abonnés des compagnies cellulaires à travers le greffe du tribunal de commerce de la Gombe. Cette illégalité est soutenue par la Banque centrale du Congo. Vous le savez, le greffier Jules Ngoy du Tricom a été mis en liberté depuis jeudi dernier sans aucune mesure disciplinaire ni infraction mise à sa charge. Tout cela pour avoir notifié une sommation aux compagnies cellulaires de sursoir au prélèvement de la taxe RAM sur les téléphones mobiles. Faute de s'exécuter, ces compagnies seront traduites en justice par leurs abonnés cette semaine d'après leur conseil. Une lettre du numéro 1 de la Banque centrale du Congo référencée 000122 adressée à la FEC reconnaît cette illégalité. Cette affaire de RAM défraie beaucoup la chronique ces derniers jours. Jeff Ngoy nous parle ici des faits. Suivez.
Les abonnés des compagnies cellulaires ont saisi le greffe du Tricom pour demander l'arrêt du prélèvement de la taxe dite RAM sur leur téléphone mobile qu'ils jugent illégal. Le greffe, usant de ses prérogatives également dévolues à l'huissier de justice, a sommé sous le sceau du Tricom les dites compagnies de cesser ce prélèvement. Mais le président du Tricom a jugé cet acte non authentique et a fait arrêter le greffier. Finalement, il l'a mis en liberté sans rien retenir à sa charge. Selon l'avocat des abonnés, l'acte posé par le greffier est bel et bien authentique, légal. Maître Hervé Diakessé.
La sommation a pour avantage d'informer une partie de s'abstenir de faire quelque chose qui cause préjudice à autrui. Si elle persiste, on peut saisir la justice pour réclamer réparation. Donc, dans les cas d'espèce, il fallait demander à ces entreprises de télécommunications d'arrêter de procéder au prélèvement de RAM parce que RAM était illégal. Un greffier peut à la fois poser les actes de greffier et les actes d'huissier, les significations, les notifications, alors qu'un huissier ne peut pas poser tous les actes que pose un greffier, notamment siéger à l'audience, tenir les feuilles d'audience.
Dans une lettre adressée à la FEC, la BCC a accusé les sociétés de télécommunications de s'ériger en émettrice de monnaie et moyens de paiement sans agrément.
Signalons que la sommation faite par le greffier n'est pas à confondre avec une décision judiciaire ni un jugement. Il s'agit d'un acte extrajudiciaire qui entre dans les missions d'un greffier. Et puis, verdict du procès des deux experts de l'ONU tués au Kasaï en 2017. Le conseil du colonel Jean de Dieu Mambweni conteste la condamnation à 10 ans de prison de son client pour violation des consignes et non-assistance en personne en danger. L'un de ses avocats qui promet d'aller en appel l'a dit à la suite de la décision rendue le week-end dernier à Kananga par la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental. Du côté des personnes acquittées, l'on note également la réaction de la défense du journal. Journaliste Raphaël Kamouzadi. François Kadima nous en parle.
La cour a soutenu que cet officier militaire qui pouvait empêcher le voyage de deux experts à Moyo Moussula l'a planifié sans en informer sa hiérarchie. Maître Tezo Mamba, l'un de ses avocats, souligne que cette décision sera attaquée à la haute cour parce que Mambweni ne mérite pas ce traitement après tous les services rendus à la nation.
Je crois qu'au niveau de la haute cour, je sais que ce verdict sera réparé. Il y a un peu de faille dans ce verdict. Nous sommes prêts à aller en appel parce que notre prévenu, le colonel Jean-Denis Mambweni, c'est quelqu'un qui a servi quand même ce pays et qu'il n'y a pas lié qu'il soit condamné par rapport à cette info.
Deux autres personnes ont été acquittées dans cette affaire pour insuffisance de preuves. Parmi elles, le journaliste Raphaël Kamouzadi. Suivez la réaction de son avocat après cette décision. Maître Albert Kachama.
Nous sommes contents de l'acquittement de notre protégé. La cour, après avoir analysé tous les moyens des droits et qu'elle s'est rendue compte que les faits n'en étaient pas un et qu'elle a acquitté. Et donc, les frais de justice doivent être, n'est-ce pas, à la charge du trésor.
Signalons que dans le jugement rendu par la cour militaire, 49 prévenus ont été condamnés à mort et deux autres considérés comme mineurs lors de la commission des faits renvoyés auprès de leur juge naturel, qui est le tribunal pour enfants. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Le 30 janvier, c'était hier, la communauté universelle a commémoré la journée mondiale de maladies négligées, dont la trypanosomiase humaine africaine ou la maladie du sommeil. Cette commémoration coïncide également avec l'anniversaire de la journée nationale de la maladie du sommeil. Cette année, l'accent est mis sur la sensibilisation et l'accès aux soins. Alors, quel est l'état des lieux de la maladie du sommeil en RDC? Quelles sont les provinces le plus touchées et comment s'organise la riposte sur le terrain? Éléments de réponse dans cette analyse de Jean-Pierre Elali Ikoko.
La trypanosomiase humaine, africaine appelée également maladie du sommeil, est l'une des maladies tropicales les plus négligées au monde. Elle est transmise par la mouche tétier et est généralement mortelle en l'absence de traitement. Selon l'OMS, 5,6 millions de personnes sont exposées à un risque élevé d'infection et la RDC notifie à elle seule près de 85% des cas en Afrique. En 2021, le pays a enregistré 387 cas. Au regard de ces statistiques, l'élimination de la maladie du sommeil en RDC demeure un défi majeur. Mais il est vrai que ces dernières années, des progrès ont permis des avancées thérapeutiques, notamment l'administration depuis janvier 2020 des fexinidazole, un nouveau traitement efficace par voie orale agissant à toutes les phases de la maladie. Cependant, 22 provinces sur les 26 que comptent les pays sont exposées à la maladie, d'où l'importance d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de mobiliser les financements pour améliorer l'accès aux outils de dépistage et des soins pour les communautés les plus affectées.
Parlons à présent du dossier Jean-Marc Kabound, président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, qui a pris une autre tournure. Jean-Marc Kabound a été destitué de ses fonctions et exclu définitivement du parti. La décision a été prise samedi par la Convention démocratique du parti qui a enfin tranché sur le dossier disciplinaire de Jean-Marc Kabound sous examen depuis quelques jours. Des détails avec vous, Blaise Makassi.
Il est reproché à Jean-Marc Kabound plusieurs griefs durant sa gestion à la tête du parti. Il s'agit notamment de son refus de comparaître devant la Commission nationale des disciplines du parti pour répondre à une invitation. L'escroquerie des cartes des membres, extorsions sont aussi parmi les infractions mises à la charge de Jean-Marc Kabound. Vu la gravité des manquements mis à sa charge, a affirmé Victor Wakwenda, président de la Convention démocratique du parti, la Commission nationale de discipline a pris la décision de déchoir Jean-Marc Kabound de toutes ses fonctions au sein de l'UDPS Tshisekedi. La même structure a aussi décidé de son exclusion du parti UDPS Tshisekedi, conformément à l'article 8, alinéa 4 du statut du parti. La décision et l'exclusion de Jean-Marc Kabound interviennent quelques jours après que ce dernier a annoncé via son compte Twitter sa démission de ses fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bien avant ces sentences, les députés nationaux et provinciaux de l'UDPS, mais aussi les présidents des groupes parlementaires de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale, avaient désavoué Jean-Marc Kabound.
Autre nouvelle, Martin Fayulu a bouclé dimanche une visite de 3 jours à Lissala dans la province de la Mongala. Une tournée qui a été marquée par ses adresses au public. Le coordonnateur de la coalition Lamuka a décrié ce qu'il qualifie de mauvaise gestion du pays, mais aussi il a désavoué l'actuel président de la CENI. Le point avec Paul Richard Malingela.
À son arrivée le vendredi dernier à Lissala, Martin Fayulu a aussitôt tenu un meeting au stade de Matata Sport. Après une minute de silence en mémoire des victimes de l'insécurité dans l'est du pays, le président de l'ECID a jugé médiocre le social des Congolais et particulièrement de la province de la Mongala. Situation caractérisée par la dégradation des routes, le manque d'eau potable, d'électricité et de soins de santé de qualité. Ce a-t-il dit par manque de bonne volonté des autorités en place. Il a aussi évoqué la prolifération des grèves des fonctionnaires dans divers secteurs de l'administration publique, ainsi que la gratuité de l'enseignement qui bat de l'aile. Pour le candidat numéro 4 à la dernière présidentielle, la taxe RAM imposée aux Congolais est une grossière escroquerie. En outre, le coordonnateur de la coalition Lamuka a dénoncé la politisation de la CENI et exigé le remplacement de son président Denis Kadima par un véritable membre de la société civile. Parlant des échéances électorales de 2023, Martin Fayulu Madidi a invité la population à l'enrôlement massif afin d'avoir des représentants dignes. Enfin samedi, Martin Fayulu a échangé avec la crème intellectuelle de l'Issala au cours d'une conférence débat. Bandaka Paul Chamalingue, la radio Okapi.
On revient à Kinshasa, les assistants et chefs de travaux de l'Université pédagogique nationale UPN décident de durcir leur grève déclenchée depuis le 5 janvier dernier. Cette décision a été prise à l'issue de leur assemblée générale extraordinaire tenue samedi 29 janvier dans l'enceinte de cette institution universitaire. Selon le président de l'association des cadres scientifiques de l'UPN, aucun service minimum ne sera rendu comme ce fut le cas lors de la première phase de la grève. Les assistants et chefs de travaux exigent du gouvernement notamment la réduction des écarts entre les scientifiques et les professeurs, le recensement des nouvelles unités ainsi que la correction de grades. Joseph Loukadi fait le compte-rendu de leur réunion. Il est au micro de Jean-Didier Ogoubani.
Il est ressorti après débat et considération que jusqu'ici le gouvernement n'a rien entrepris qui soit digne d'obtenir soit l'assouplissement ou carrément la suspension de la grève. C'est ainsi que les membres de notre corporation ont voté pour la continuité de la grève, cette fois-ci une grève sèche, sans service minimum. Certes, nous avons eu le premier contact avec les membres du gouvernement. Nous avons présenté notre cahier de charges et nous espérons que ce lundi, à 16h, comme convenu, ils pourront nous recevoir pour nous dire ce que pense le gouvernement de ce cahier de charges que nous avons déposé. Nous exigerons les concrets, c'est-à-dire jusqu'à la résolution définitive et durable de nos revendications.
Notons que les assistants et chefs des travaux de l'UPEN durcissent leur mouvement de grève en dépit du début des pourparlers entre le gouvernement et le monde syndical des cadres scientifiques depuis le 26 janvier dernier. Les portes des universités publiques de la RDC sont fermées depuis la rentrée académique 2021-2022.
Actualité internationale.
Après une délégation de chefs d'état-major, la CEDEAO dépêche ce lundi une mission ministérielle à Ouagadougou au Burkina Faso, une semaine après le putsch qui a renversé Roch Marc Christian Kabore. Une mission qui prépare le prochain sommet de l'organisation sous-régionale prévu jeudi à Accra. Et puis au Portugal, le socialiste Costa obtient la majorité absolue, résultat quasi complet.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le docteur Julienne Choa, médecin coordonnatrice du programme de lutte contre la trypanosomiase dans les provinces du Kassai Oriental et de la Lomami. Avec elle, nous parlons donc de l'évolution de la prise en charge de cette maladie dans ces provinces. Elle s'entretient avec Esther Ndalafina. Suivez.
Bonjour docteur Julienne Choa. Le monde entier célèbre le 30 janvier la journée de lutte contre la trypanosomiase. Quelle est la situation de cette maladie au Kassai oriental?
Il faut dire que par rapport aux années antérieures, les cas diminuent. On est en train de penser à une éventuelle élimination d'ici 2030.
Quelles sont les statistiques disponibles de la trypanosomiase au Kassai oriental?
Et moi, je coordonne deux provinces. Je suis sur la province de Kassai oriental et la province de la Lomami. L'année qui vient de s'achever, 2021, on a eu au total 28 malades. Mais c'est beaucoup. Dans ce sens, qu'un seul malade constitue déjà un problème de santé. Parce qu'un seul malade THA peut contaminer tout un village. Dès qu'une personne se retrouve malade et à côté de lui une mouche qui se contamine, alors ça fait un problème sérieux. Mais il faut avouer que les nombres de cas ont vraiment diminué. Par rapport aux années antérieures, on comptait dans les 10 000 malades l'année. On a eu à faire un grand travail.
Comment on attrape la trypanosomiase?
La voie la plus importante, c'est la piqûre d'une moutte cétée. Une personne saine se fait piquer par une moutte cétée contaminée. La moutte cétée est allée prendre son repas chez une personne malade parce que la mouche se nourrit du sang. Donc pendant 6 mois, une moutte cétée contaminée, elle contamine les personnes saines.
Vous avez parlé de 28 malades. Y a-t-il eu des décès?
Non, on ne connaît plus de décès depuis plus de 4 à 5 ans maintenant. Tous les malades qui se présentent, on les prend en charge correctement et tous guérissent.
Quelle est la tranche la plus touchée par la maladie?
C'est beaucoup plus les personnes actives qui peuvent aller au champ, les personnes qui peuvent pêcher, les creuseurs et tout. Donc, les personnes qui quittent le village pour aller travailler. C'est pour ça que nous, on repartit beaucoup plus chez les adultes et chez les enfants. La particularité de Kassai Oriental, il y a aussi les enfants qui font la maladie du sommeil. On a déjà eu même les enfants de 3 à 4 ans. Mais eux, leur contamination, c'était beaucoup plus la transfusion sanguine. 90% des cas, c'est à partir de la moutte qui était infectée. Mais il y a aussi quelques proportions où on a vu des personnes qui ont reçu le sang contaminé qui font aussi la maladie du sommeil, mais aussi les femmes enceintes qui peuvent transmettre chez leur bébé donc lors de leur accouchement.
Y a-t-il des centres de traitement de la maladie du sommeil dans les provinces du Kassai oriental et Lomami?
Il y en a. Avant, on n'en avait que 3. Et au Kassai oriental, on avait le CRT d'Ipumba ici chez nous et à Katanda. Et du côté Lomami, on avait l'HGR Ngandanjik. Mais pour le moment, il y a plusieurs structures. On est arrivé en moyenne 10 structures qui ont pris en charge les malades TSA l'année passée. On peut aller jusqu'au-delà parce que maintenant, le médicament qu'on utilise, c'est un médicament oral. Donc, tout personnel de santé peut administrer ça. On peut l'administrer et dans les structures de soins et à domicile. Il y a eu beaucoup d'évolutions par rapport à la prise en charge de la maladie du sommeil.
Quelles sont les difficultés auxquelles les deux provinces sont confrontées par rapport à la prise en charge des personnes malades?
Par rapport à la prise en charge, il n'y a pas de très sérieux problème. Le problème, c'est le dépistage, donc détecter les malades TSA. Dans ce sens que c'est seulement les unités mobiles, les structures spécialisées de notre programme qui vont de village en village chercher des malades. Mais les structures de soins, donc les centres de santé, les AGR, souvent ils oublient. Un malade peut venir dans la structure, on le soigne d'autres pathologies et on oublie la maladie du sommeil. Alors que si toutes les structures pouvaient prendre ça à cœur, c'est-à-dire quand le malade vient, il pense aussi à la maladie du sommeil, je pense que très vite on déclarerait des malades, très vite on les soignerait. Il y a des tests rapides, des TDR qui nous permet de dire que cette personne peut avoir été en contact avec le trypanosome. On examine le sang. Après le dépistage, là, on doit poursuivre avec les examens beaucoup plus sensibles pour voir le trypanosome et mettre sous traitement le malade.
Il y a des programmes qui ont annoncé l'éradication de cette maladie d'ici 2015-2020. Qu'est-ce qui bloque l'éradication d'après vous, docteur?
C'est une maladie qu'on appelle maladie négligée, dans ce sens que c'est une maladie qui attrape beaucoup plus la population pauvre. Et quand la personne se sent malade, elle ne va pas directement se faire examiner. Et peut-être qu'elle a honte, on la classe parmi les mauvais sorts ou une malédiction, ce qui fait que les gens ne viennent pas se faire dépister. Je pense que c'est ça, il fouille. Et en étant caché, c'est une occasion pour pouvoir disséminer.
Docteur Julienne Choa, je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Esther.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.